9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
Dans la culture bretonne, l'ankou personnifie la mort. Et s'il y a des Bretons qui nous écoutent, je sais qu'ils sont nombreux tous les jours, ça doit les impressionner de m'entendre nommer ainsi à voix haute ce qui normalement ne doit même pas être évoqué, à peine représenté avec sa longue flèche ou son pic sous les traits décharnés d'un vieillard squelettique, avec des cheveux blancs, une sorte de feutre miteux, des oripeaux de bure et de poussière. Il a été sculpté, ce personnage allégorique, emblématique, dans la pierre des ossuaires du Trégor. Il personnifie le sort qui s'acharne. Et il n'est pas tellement douteux qu'il ait appris à vivre avec lui et soit regardé comme la victime attitrée, le personnage que nous allons évoquer ce matin. Le personnage qui a été suivi par l'ankou, qui a été partout précédé par la mort, et c'est Anne dont je vous parle. Anne de Montfort, comtesse d'Étampes, duchesse de Bretagne. Elle est née à Nantes en 1477 et elle mourra à Blois, il n'y a aucun suspense, en 1514, après avoir constamment lutter contre cette ombre avant d'y succomber dans la fleur de l'âge, donc à l'âge de 36 ans si vous avez fait le petit calcul. Il suffit de se promener en Armorique encore de nos jours pour prendre la dimension de cette duchesse Anne tellement omniprésente qui a donné son nom à tellement de commerces et à beaucoup de places dans les différentes villes de Bretagne. Elle est une sorte de géant de l'histoire locale. Jeune héritière, unique dépositaire des biens et des dons d'une lignée de ducs qui avait donné du fil à retordre à pas mal de rois de France, en dépit d'alliances qui parfois avaient pu être providentielles, c'est vrai. Anne de Bretagne, reste celle par qui toute cette région, cette péninsule, j'allais dire cette civilisation est entrée dans le giron français. Elle reste l'artisan aussi, disons-le, d'un polissage des mœurs, d'une féminisation de la cour de France, l'instrument de quelque chose de très civilisé. Vous savez, c'est ce que Norbert Elias appelait le procès de civilisation. Eh bien, une partie de la belle civilisation française doit son raffinement, doit son élégance au souvenir et à l'empreinte de la duchesse Anne.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Alors au moment de l'avènement de Charles VIII, tout jeune Charles VIII, hein, bien sûr, pendant toute sa minorité, c'est sa grande sœur, Anne, encore une autre Anne, elle c'était la fille de Louis XI, hein, que Louis XI considérait comme la moins sotte femme qui fut en France. Elle avait épousé Pierre de Beaujeu, elle était donc régente de France. Eh bien, au moment de l'avènement de son petit frère, quand Charles VIII devient pleinement roi, Anne de Bretagne est la fiancée de Maximilien d'Autriche. Seulement, la pression du côté de la France est très forte. Et on va finir par annuler les épousailles de la Bretagne et de l'Autriche à la faveur de la couronne de France, bien sûr. Les noces sont célébrées en décembre 1491 au château de Langeais, sur la Loire. Si vous allez visiter aujourd'hui le château de Langeais, vous verrez qu'on a beaucoup évoqué cette journée, on l'a reconstituée d'une certaine manière. Hein. C'est toute une mise en scène, parce que ça a été le grand moment de ce beau château. La cour de France découvre l'apparat de toutes ces dames magnifiques qui entourent la jeune mariée bretonne, avec leurs traînes de velours, avec leurs hennins, beaucoup plus haut que ce qui s'était fait en France jusqu'alors. Ce sont les réjouissances. Décembre 1491, la petite duchesse a 14 ans. Elle a déjà été fiancée, non seulement à Maximilien d'Autriche, mais elle a été fiancée 12 fois avant d'épouser le roi de France. Autant dire qu'elle est un peu un trophée. À l'évidence, on l'a moins choisie pour ce qu'elle est que pour l'opportunité politique qu'elle incarne, bien sûr. Et elle le sait, Anne. Elle sait très bien quelle est sa situation. Elle fait contre mauvaise fortune bon cœur. Elle sourit à son époux qui a 21 ans. La vérité, c'est qu'ils ne sont beaux ni l'un ni l'autre. Je ne vais pas essayer de vous faire rêver sur ces jeunes époux. Mais ils sont jeunes, ils ont de la fougue, au point d'étonner certains ambassadeurs par la vigueur de leurs ébats. Il paraît qu'ils vont jusqu'à faire tomber les baldaquins des lits, voyez un peu. La jeune reine arbore un visage qui n'est pas si laid. Alors c'est vrai qu'elle a le front très bombé, un regard un tout petit peu exorbité, mais des yeux limpides, un regard droit. cet air absolument magnifique qui fait oublier sa trop petite taille, beaucoup d'assurance, peut-être une légère claudication si vous regardez bien, mais elle-même le nierait farouchement. Le jeune couple se révèle donc fécond dans la nuit du 9 au 10 octobre 1492. Entre parenthèses, c'est une date qui vous rappelle quelque chose, puisque de l'autre côté de l'Atlantique, Christophe Colomb s'apprête à découvrir un double continent. Il ne le sait même pas, d'ailleurs, lui, il croit qu'il est en train d'arriver aux Indes. Je ferme cette parenthèse. Donc, en octobre 1992, la nouvelle reine met au monde un enfant. Et quand je dis un enfant, c'est un petit prince. Vous imaginez la joie dans la demeure royale de Plessis-les-Tours. C'était l'endroit où était mort le vieux roi Louis XI. Et bien là, c'est désormais le lieu de la naissance. Et la nouvelle va se répandre très vite à travers le royaume et l'Europe entière. Le nom du petit prince, Charles Orlan. Orlan, c'est la forme francisée du Roland italien. Il est baptisé en grande pompe à Saint-Jean-du-Plessis par le futur saint François de Paule. Anne est comblée, son mari l'est aussi, Charles VIII. Et c'est dans le cadre du château d'Amboise, qui est très élégant, en plein embellissement, que le peintre Jean Hay va immortaliser les traits de cet enfant de 2 ans. Et le tableau, vous pouvez le voir au Louvre aujourd'hui, il est très célèbre. Hein, bien sûr, ce poupon qui a l'air tellement sûr de lui, tellement doux en même temps, d'une intelligence précoce. Bref, c'est tout l'espoir de la dynastie des Valois. Le jeune couple royal n'a pourtant pas l'intention de s'arrêter en si bon chemin. Dès l'année suivante, la reine est de nouveau enceinte. Et elle, qui pour sa première grossesse avait pris des précautions infinies, cette fois elle se montre moins prudente. On va même la voir suivre une chasse en forêt de Courcelles. Et c'est peut-être ce qui fait qu'elle va finir par perdre l'enfant, qui pourtant aurait été un garçon. Ça, c'est un drame terrible. C'est comme si l'ombre de l'Ankou commençait à s'immiscer dans l'histoire, dans la partie royale de la vie d'Anne de Bretagne. Premier chagrin donc du couple royal, qui dans la foulée n'empêche pas qu'on annonce à la cour une nouvelle grossesse de la reine. Décidément, elle est très féconde, cette femme-là. Et avant de voir le terme de sa grossesse, le roi, de son côté, sera parti pour l'Italie. On est en 1495. Charles est en train d'inaugurer ce qu'on va bientôt appeler les guerres d'Italie, vous le savez. Bien. Anne est toujours assez jeune, elle a 17 ans à ce moment-là. Et c'est le ventre arrondi qu'elle fait donc ses adieux à cet époux, qu'elle couvre de promesses, elle fera de son mieux pour tenir la cour en son absence. Et c'est vrai qu'elle le fera et qu'elle le fera très bien. Non seulement il y a beaucoup d'élégance autour d'Anne de Bretagne, mais il y a aussi une certaine efficacité. On peut dire qu'elle est reine dans l'âme, celle qui était duchesse de Bretagne. La troisième grossesse aboutit au printemps 95 à la naissance d'une fille qui est mort-née, hélas. Il faut faire connaître la nouvelle au roi qui est bien loin. Et Anne va se consoler en couvant le petit dauphin qui lui est en train de grandir. Elle va retrouver le roi à Lyon vers la fin de cette année un peu difficile. Il est en train, lui, de rentrer de Naples, bien sûr. Et début décembre, c'est une épidémie de rougeole qui se déclare. Et là, chose terrible, le petit dauphin, le petit Charles Orlan, est touché par l'épidémie. Et voilà que le 14 décembre, il est au plus mal. Imaginez le royaume entier agenouillé en prière. Et le 16 décembre, le petit prince est mort. Ah, sa mère est anéantie. On l'a dit, prête à sombrer dans une espèce de démence. Il faut la retenir pour qu'elle ne fasse pas de choses terribles. Cette fois, le bras de fer avec l'Ankou est lancé. Quelques mesures de cette noce bretonne extraite de la suite Karadec de Vincent d'Indy, l'orchestre symphonique de Malmö était sous la direction de Darrell Lang.
Vous écoutez Radio Classique.
Il était assez fréquent, évidemment, à l'époque que les enfants meurent en bas âge. Mais là, vous imaginez, c'était cet enfant qui portait les espoirs de la dynastie, le fruit de ce mariage entre Charles VIII et Anne de Bretagne. Mais la reine Anne n'est pas de celles qui se laissent longtemps abattre. Elle va remonter en selle, si vous me passez l'expression, et début 1496, elle va annoncer, non seulement à la cour de France, mais à toutes les cours d'Europe, qu'elle est de nouveau, comme on disait à l'époque, en position avantageuse. On va prendre beaucoup plus de précautions cette fois, évidemment. La grossesse, en plus, est interminable, pénible, avec des mois qui se passent sous les grosses chaleurs de l'été 1496. Et finalement, elle va donner naissance à un petit prince, Charles. Charles comme son père, bien sûr, et comme son frère tout juste défunt. C'est une grande joie. Le 8 septembre, la France entière est en fête. Et c'est bientôt un très grand deuil, puisque cet enfant meurt au berceau le 2 octobre. L'année suivante, 1497, c'est l'occasion d'une nouvelle tentative menée cette fois dans une très grande discrétion. Il ne faudrait pas qu'il se dise dans les cours étrangères que le roi de France est de constitution malingre et qu'il n'arrive pas à donner un héritier valide à sa dynastie. On a bien fait d'être prudent puisque l'enfant qui vient au monde va de nouveau mourir au berceau. Entre parenthèses, si vous regardez bien, ça veut dire qu'en 18 mois, la reine Anne a quand même perdu 3 enfants. Elle a fait le deuil de 3 fils en 1 an et demi. Vous imaginez ce que ça peut vouloir dire en termes d'accablement. On dit que la santé mentale de la reine est un peu flageolante. Comment ne le serait-elle pas? Mais cependant, elle va continuer à essayer d'assurer ce qui est la mission d'une reine de France, donner des héritiers à la dynastie, bien sûr. Difficile d'expliquer cet acharnement, entre parenthèses, de l'Ankou sur le berceau des enfants d'Anne de Bretagne. C'est une espèce de malédiction. On ne connaît pas de péché à la reine, mais elle finit par se poser des questions, bien sûr. Elle va multiplier les processions, les pèlerinages, etc. On sait qu'elle mène par ailleurs une vie tout à fait saine. Ses grossesses sont menées comme elles doivent l'être. On conçoit mal dans l'opinion pourquoi il y a toutes ces morts de jeunes princes. Et si ça venait plutôt du roi? On sait que Charles VIII, après tout, est infidèle et que déjà plusieurs fois, il a été victime d'affections contractées en Italie dans des liaisons extra-conjugales. Et à voix basse, il commence à se dire que le roi n'est peut-être pas très saint. On ne peut pas ignorer ces mauvais bruits à la cour, bien entendu. Et lui aussi va faire des jeûnes, des abstinences et des processions. Et ça y est, la reine est de nouveau enceinte. Et cette fois, on veut penser que c'est la bonne. Alors comme à chaque fois que s'annoncent des couches, Anne se claquemure dans la résidence qui a été le château préféré de son défunt beau-père, à Plessis-les-Tours. Et le 20 mars 1497 vient au monde un enfant qui est une petite fille et qui, pour le couple royal, se veut le symbole d'un nouveau départ, d'une nouvelle fécondité. Et pourtant, la petite princesse, qui s'appelle Anne comme sa mère, va mourir à son tour dans les jours qui suivent. Et cette fois, la reine n'est pas seulement abattue, on l'a dit morte vive. Elle refuse de revoir la lumière du jour. Personne ne peut exprimer ce que ressent cette reine devant l'acharnement de l'Ankou sur le berceau de ses enfants. Et pour tenter de divertir un peu son épouse, Charles VIII décide de l'emmener à Amboise, dans ce château qu'on est en train d'achever. Et il ordonne qu'on s'amuse le plus possible. Et il y a notamment un tournoi de jeu de paume. C'est un peu le tennis de l'époque. Et un samedi pluvieux, on est le samedi 7 avril 1498, Charles dit à son épouse « Oh, c'est la fin, ce sont les derniers échanges de paume. Allons voir ça dans la galerie en surplomb. » Et le voilà qui, il a 27 ans seulement, il prend en courant la galerie Hackelbach. C'est, si l'on en croit la chronique, le plus déshonnête lieu de séant, car tout le monde y pissoie, dit-on. Bon, bref, Charles entraîne son épouse dans cette course un peu folle, qui a l'air un peu amusante comme ça, sauf qu'il se cogne le front, vous savez, à un linteau qui est plus bas que les autres. Au début, on pense qu'il a été commotionné, sauf qu'une hémorragie interne s'est déclarée. Et qu'en l'espace de 9 heures, Le roi va passer de vie à trépas, la reine à prier très fort que mon Dieu et la glorieuse Vierge Marie, Monseigneur Saint-Claude, Monseigneur Saint-Blaise nous soient en aide. Rien à faire, à 11h du soir, en cette veille des rameaux, donc de l'an 1498, le roi est mort. L'Ankou, vous dis-je, l'Ankou toujours. Sir Colin Davis dirige l'Orchestre symphonique de Londres dans cette ouverture du Roi Lear de Berlioz.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Au moment du mariage de Langeais, 7 ans plus tôt, la duchesse Anne, la duchesse de Bretagne, avait accepté, pour le cas où le roi Charles viendrait à mourir, d'épouser son successeur. Eh bien, c'est ce qui va avoir lieu. Le successeur, c'est le cousin du roi, puisqu'il n'y a pas eu d'héritier direct, hein, vous l'avez bien compris, c'est Louis d'Orléans. Louis d'Orléans est quand même marié, ça pose un petit problème. Il est marié en plus à cette fille de Louis XI qui était boiteuse, contrefaite, la pauvre, la princesse Isabelle de France, qui par ailleurs était une véritable sainte au sens propre du terme. Mais on va réussir grâce à la raison d'État, vous savez, ces choses-là s'arrangent toujours. Et elle sera faite bienheureuse de l'Église en 1951, la princesse Isabelle. En attendant, la procédure d'annulation est lancée et Louis XII va pouvoir épouser cette duchesse de Bretagne qui avait été la reine de France, épouse de Charles VIII et qui maintenant est reine de France, épouse de Louis XII. Est-ce qu'Anne de Bretagne va réussir à donner des enfants à son mari? Il y a dans l'ombre une personne qui observe tout ça. C'est la mère de François d'Angoulême, c'est Louise de Savoie, qui sait que son fils, qui pourtant était né bien loin du trône, François d'Angoulême, est en train de s'en rapprocher à mesure que les héritiers se font attendre. Et à chaque fois qu'il va désormais y avoir une grossesse, à chaque fois qu'Anne de Bretagne va être enceinte de Louis XII, Louise de Savoie est là qui espère ardemment que ça ne donnera rien. 14 octobre 1499, Anne met au monde un enfant viable. C'est une fille, c'est Claude. Ce sera la célèbre reine Claude. En 1503, c'est un garçon qui s'annonce et dont l'arrivée est en train de rendre malade Louise de Savoie, mais il est mort à la naissance. Nouvel enfant. Le 25 octobre 1510, de nouveau c'est une fille, c'est Renée, ce sera la duchesse de Ferrare. On a l'impression qu'on n'y arrivera pas. L'accouchement de 1510 en plus ne s'est pas bien passé, et c'était la 9e grossesse d'Anne de Bretagne. Elle a beaucoup plus souffert encore qu'à l'accoutumée. Elle a contracté une infection urinaire et on conclut qu'elle a la maladie de la pierre et l'on pense que ça pourrait l'empêcher de donner à son second époux le dauphin qu'il espère. Et en attendant, sa fille aînée, même si elle est très jeune, est devenue le meilleur parti d'Europe. Et il y en a un qui se verrait bien l'épouser, bien sûr. C'est le fameux François d'Angoulême, dont la silhouette se rapproche du trône. Et c'est pour tenter de tuer dans l'œuf cette union que la reine Anne va proposer de son côté des fiançailles avec un héritier Habsbourg. Elle n'a pas oublié qu'elle avait été elle-même fiancée avec Maximilien. En l'occurrence, c'est Charles de Gand, l'héritier, Charles de Luxembourg, qui allait devenir roi d'Espagne et qui un jour se fera élire, vous savez, sur le trône du Saint-Empire et qui deviendra Charles Quint. En cette année 1504, le roi Louis XII est assez malade pour qu'Anne envisage sérieusement de lui survivre. Et depuis Amboise, Louise de Savoie, la mère de François d'Angoulême, est là qui surveille tout. Elle voit déjà son fils aux affaires. Et un de ses grands alliés, c'est le maréchal de Gier en question, va aller jusqu'à bloquer la Loire pour empêcher Anne de Bretagne et sa suite de regagner par voie d'eau la Bretagne dans l'hypothèse où Louis XII viendrait à mourir. Bon, de toute façon, tout ça va être battu en brèche puisque Louis XII survit avant de rechuter l'année suivante et de convoquer à son chevet ce grand dadais de François d'Angoulême, cet héritier par la force des choses, auquel il finit par donner la main de sa fille. Alors là, ça, on peut dire que que pour Anne de Bretagne, pour la reine Anne, deux fois reine de France, c'est vraiment le glas.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Et elle va se rendre dans son duché pour essayer de se changer un peu les idées. Elle va faire un tour de Bretagne qui lui permet de redécouvrir des paysages qu'elle a tant aimés dans son enfance. Le fait est que la reine Anne a perdu l'éclat de ses premières années. Bien sûr, elle vit maintenant dans une sorte de dolence et on la comprend. Cette mélancolie qu'il a gagne constamment, cette gravelle maintenant qu'il a consume. Aujourd'hui, on dirait qu'elle est victime de lithiase urinaire, vous savez, qui rend très pénible ces derniers mois et ces dernières semaines, parce que ça y est, l'Ankou est de retour. Anne entre en agonie au tournant de janvier 1514 et elle va mourir le 9 à 6 heures du matin. Et c'est le deuil d'une mère et d'une belle-mère que vont porter pendant 4 mois Claude et François le jour de leur mariage même. Ils sont entièrement en deuil, vous imaginez. Quant au roi Louis XII, il se remariera in extremis à Marie Tudor, la sœur, vous savez, du roi d'Angleterre Henri VIII. Et il va s'épuiser à lui faire un fils, tellement s'épuiser qu'elle finira par l'enterrer, la reine Marie Tudor. Il meurt le 1er janvier 1515, c'est facile à retenir, la mort de Louis XII. Le destin a voulu que la dynastie change encore de branche et que ce soit un Angoulême qui monte sur le trône. Il deviendra le roi François Ier. De là où elle est, on peut imaginer le désespoir définitif de la reine Anne.
Vous écoutez Radio Classique.
Non seulement vous écoutez Radio Classique, mais vous vous apprêtez à entendre, à accueillir, à acclamer Christian Morin. Bonjour Christian.
Silence, si je n'étais pas là.
Mais vous êtes là, je vous ai vu.
C'est un mariage qui n'a pas compté pour des prunes, puisque François Ier a appelé ses prunes Reine Claude en l'honneur de sa première épouse.
Exactement, c'est elle qui a donné ce nom-là.
Donc voilà, alors ce qui est amusant avec l'histoire est... Plongez-vous dans ce livre chez Perrin, que j'ai feuilleté encore hier soir, avant de vous retrouver ce matin.
J'espère que ça ne vous a pas endormi trop vite.
Pas du tout. Bon, mais ce qui est amusant, c'est que quand on se connaît, comme nous, quand on lit des livres de Franck Ferrand, j'entends votre voix lisant. Et alors, donc, hier après-midi, à 14h, vous parliez de Anne de Kiev. Ce matin, c'était Anne de Bretagne. Cet après-midi, il s'agit encore d'une autre Anne, mais aux côtés de Mazarin, puisque ce sera Anne d'Autriche.
Décidément, beaucoup de reines de France sont prénommées Anne.
Ne voyez-vous rien venir, si Franck Ferrand à 14h.
La fronde.
Et demain matin, bien sûr. 8h05, je le rappelle, pour le point du jour, avec David Abiker. Et puis ensuite, à 9h, Franck Ferrand raconte. Passez une excellente journée en ce mercredi.
Vous aussi.
Bonne journée.